Nous voulons dire merci à Dieu qui rend ce jour possible, Dieu qui nous garde, Dieu qui nous renouvelle sa faveur, sa grâce et sa force, et toute notre gratitude aussi vis-à-vis de notre pasteur, le pasteur Joseph Bondo et maman Gisèle que nous saluons, et nous pensons, nous croyons que dans quelques jours, ils seront avec nous de retour pour célébrer et louer le Seigneur ensemble en ce lieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire deux textes. Le premier dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Et puis 1 Corinthiens chapitre 15, où nous lirons du 19e au 26e verset. 1 Corinthiens 15, 19 à 26. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et 1 Corinthiens 15, 19 à 26. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 19 à 26. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. En ce matin, j'aimerais nous proposer une petite méditation intitulée « L'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ ». J'aimerais que nous puissions réfléchir pendant quelques minutes sur cet événement heureux, cet événement que nous attendons en tant que chrétiens. Vous entendrez souvent les gens dire ah, « Nous attendons la fin du monde ». Nous, les enfants de Dieu, nous n'attendons pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde qui est la prochaine étape dans la ligne de temps eschatologique. L'événement le plus soudain, le plus immédiat, le plus proche de nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Il y a une chose que l'Église de Dieu attend. Je dirais même, il y a une chose que l'Église de l'époque attendait. Chaque jour, ils vivaient en se disant, Jésus revient. C'est pourquoi vous allez voir le ton de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit. Il écrit au présent et il met la première personne du pluriel, nous les vivants. Souvent il met le nous parce que il vivait dans cette espérance. Combien de chrétiens aujourd'hui pensent, réfléchissent-ils encore sur les choses éternelles? C'est vrai que nous avons des besoins, c'est vrai que nous avons besoin d'argent, besoin de trouver du travail, besoin de nous marier, d'avoir des enfants, de construire une maison, d'avoir des biens. Gloire à Dieu, il donne toutes ces choses. Mais il ne faut pas oublier que la chose la plus importante, La première chose que Dieu est venu faire dans notre vie depuis le jour qu'il nous a sauvés, c'est de nous emmener au ciel. Alléluia. Alléluia. Le ciel est le plus grand deal, le plus grand besoin de Dieu lorsqu'il a contracté cette alliance avec nous. Ce qui intéresse Dieu, le plus important pour lui, c'est d'abord votre position au ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. C'est ça l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, on cherche premièrement le surcroît, ensuite on cherche le royaume de Dieu. Nous sommes dans une génération où très peu de personnes cherchent réellement Dieu pour le royaume de Dieu. Combien de chrétiens vivent en se disant, vraiment, est-ce que si la trompette sonnait aujourd'hui, si Jésus revenait aujourd'hui, où passerais-je mon éternité? Combien parmi nous réfléchissons encore sur les choses éternelles? Nos messages sont ponctués des choses de ce monde. Nos prédications, nos prières, nos sujets de prière, c'est vraiment beaucoup plus des choses de ce monde. Gloire à Dieu, je dis bien, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne les choses de ce monde. Mais le plus grand besoin de Dieu, c'est de nous voir au ciel. Alléluia. Et il est très important en tant qu'Église que nous puissions de temps à autre nous arrêter sur notre chemin et nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts pour le jour de l'enlèvement? Maintenant que le Seigneur Jésus revient, est-ce que nous allons aller participer à ce grand rendez-vous? Je me suis converti à une époque, excusez-moi, peut-être je paraîtrai nostalgique, où on chantait encore le retour du Seigneur. À une époque où les chants, ce n'était pas que l'adoration. Je n'ai rien contre l'adoration, mais je dis toujours, je suis contre le worship system qui est maintenant vulgarisé, où les cultes ne sont que des cultes où les gens font que chanter Alléluia, Alléluia du matin au soir, où il n'y a aucune prière de consécration. Il n'y a aucun moment où les gens parlent à Dieu de leur éternité, des péchés dans lesquels ils sont et contre lesquels ils se battent. C'est bien d'adorer, mais tu es toujours impudique. Ça sert à quoi? Est-ce que tu n'as pas besoin de t'arrêter à un moment de dire, délivre-moi Seigneur, je suis esclave de l'argent, je suis esclave de l'orgueil, je bats ma femme, je trompe mon mari. Mais tu vas adorer du matin au soir. À cette époque-là, lorsqu'on venait à l'église, on chantait aussi des cantiques qui nous rappelaient que le ciel arrivait. Jésus revient, Alléluia, Jésus revient. Alléluia, seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, Alléluia. Je vois qu'il y en a qui connaissent ce chant. Vous qui entonnez les cantiques, aidez-nous de temps à autre, même une fois par an. Pasteur, on a déjà prophétisé sur vous tout à l'heure. De temps à autre, même une fois par an. Nous ramener à ce souvenir qu'il y a un événement. Frère, nous ne resterons pas toujours ici sur la terre en train de jouer au piano, au tam-tam, de se réunir à la borne. Il y a un événement qui arrive. Jésus revient à la voix de l'archange, au son de la trompette. Le système actuel des choses va s'arrêter. Le monde ne sera plus ce qu'il est. Bientôt, très bientôt, que le monde l'entende, que l'Église l'écoute. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ne vis pas seulement pour les choses de ce monde. Ne vis pas seulement pour l'orgueil de ce monde. C'est bien d'être béni sur terre, mais il y a plus que ça. Et ce deal est plus grand que la terre. Le contrat que Dieu a avec toi, c'est un contrat pour l'éternité. Et pour des choses éternelles. C'est pour ça que, souffrez qu'en ce matin, je puisse rester sur ce texte. Le texte de 1 Thessaloniciens sera un peu la base de notre réflexion. Parler de l'enlèvement de l'Église et parler du retour du Seigneur. Sur une ligne de temps, on dira que la prochaine étape, c'est l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur arrive. L'ange sonne de la trompette, nous allons voir cela en détail, nous montons au ciel. Et une fois que nous sommes au ciel, il y a des choses qui vont se passer au ciel, et il y a des choses qui se passent sur la terre, au même moment. Ce sont les prophéties de la Bible, et il est très important en tant que chrétien nous puissions réfléchir dessus. Vous serez parmi ceux qui seront enlevés, ou bien vous serez parmi ceux qui resteront sur la terre. Plaise à Dieu que nous soyons tous enlevés. Dans les années 90, dans une église, les hommes étaient en train de louer le Seigneur. Et il y avait ce vieux chant qu'on entonnait à l'époque. Et Kolo Yesu Yaka, Kolo Yesu Yaka. Ah, tous ces chants, ça nous manque. Où l'église dit Jésus revient. Et puis il y a quelqu'un qui a commencé à prophétiser. Vous me demandez de revenir, mais si je reviens, il n'y a que 8 personnes qui partiront. Alors dans cette église, ça se passait pas très loin d'ici, à Mongafula, les gens ont commencé à compter. Quand c'est comme ça, vous enlevez le pasteur et sa femme, ça reste 6. Vous regardez les anciens, les diacres, vous enlevez. Il reste combien? Vous comptez dans l'église quelques papas, quelques mamans zélées, quelques jeunes zélés. Et là, lorsqu'il vous êtes à 7, vous commencez à vous convaincre que le 8e, c'est vous. Mais bien aimé dans le Seigneur nous donne le temps, des moments comme ceci, pour que nous réfléchissions. Que nous ne puissions pas être pris par surprise. Et que chaque jour soit une préparation. Alléluia. Alors je nous propose quelques questions. 6 questions. Et ces 6 questions, 5-6 questions, je voudrais vous m'arrêter, vont nous permettre de comprendre le texte et puis de prêcher la parole en ce jour. Alors, nous nous posons la première question. Qui est concerné par l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, ça concerne qui? Ça s'applique à qui? Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est clair, ça concerne l'Église. Mais ne vous en faites pas. Premièrement, ça concerne l'Église, mais il y a des conséquences, il y a des corollaires. Il y a des choses qui vont se passer dans ce monde. J'aime bien ce que Pasteur Lukusa nous disait à l'époque, où il était encore, il venait des fois rester avec l'Église. Il donnait l'exemple d'un avion qui est conduit par un pilote chrétien et Jésus revient, le pilote est enlevé. Vous êtes dans un taxi, le chauffeur est chrétien. La trompette sonne et le chauffeur s'en va. Vous êtes le client derrière, bien assis. Mais païen, chrétien, mais... Vous pensez à vous? Non, n'ayez même pas peur, vous marchez bien avec Dieu. Vous partirez avec le pilote, c'est la réponse de tout chrétien normal. Alléluia. Je n'ai pas à m'inquiéter, je serai parti. Si le pilote part, moi aussi, je pars. Si le chauffeur là part, moi aussi, je pars. Alléluia. L'enlèvement concerne l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, des hommes et des femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, accepté le message du salut, le message de la croix, le message qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné et par lequel nous pouvons être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'appartenir à une église. Il ne s'agit pas d'une affiliation à une communauté quelconque. Il ne s'agit pas d'être membre d'une religion. Il ne s'agit pas d'être en règle avec ses dîmes, offrandes et cotisations. Il s'agit d'une relation avec Dieu. Jean 3, chapitre 3. Dans Jean au chapitre 3, le verset 3, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il commence pour nous, là, les enfants de Dieu, à ce moment-là précis, nous entrons dans son royaume. Que vous soyez chrétien mort, que vous soyez chrétien vivant, lorsque la trompette sonne, les morts sont enlevés, ils vont vers le Seigneur. Les vivants, nous qui sommes là sur la terre, nous partons. Et si l'enlèvement de l'Église se faisait en plein culte du dimanche, ça serait catastrophique de voir que les membres sont partis, le prédicateur du dimanche, laissez-moi prendre l'exemple sur moi-même, il reste là en train de prêcher à des chaises vides. Et il se rend compte qu'il n'était pas sérieux. Il rentre, il regarde derrière, la chorale est partie. Alors il se souvient, oh là 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 là, est-ce que je marchais convenablement avec Dieu? L'enlèvement concerne ceux qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont nés de l'esprit. Ils ne sont pas seulement nés de la chair. Ils ont fait la paix avec Dieu. Alléluia. Paul précise que les morts en Christ, ils ressusciteront en premier. Il y a un ordre. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, nous serons aussi enlevés. Ce qui me permet de parler, de donner ma deuxième question. Que signifie l'expression « ceux qui dorment » Parce que l'apôtre Paul en parle. Il dit que vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, le verbe « dormir », ce n'est pas le sommeil de sommeil. La Bible parle souvent de la mort et plus souvent la mort des justes, la mort des croyants comme étant un sommeil. Dans Jean chapitre 11, le verset 11, parlant de Lazare, la Bible dit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Dans Actes chapitre 7, verset 60, la Bible dit, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, Étienne, la Bible dit, « S'endormit. » Voilà les gens qui dorment. Connaissez-vous un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant marché avec Dieu, il est mort en étant chrétien dans la foi, il n'y a pas de problème. L'enlèvement, ça le concerne. C'est pour ça que nous ne pleurons pas ceux qui sont morts comme si nous ne les reverrons jamais. Nous pleurons parce que physiquement, peut-être nous les verrons plus, mais il y a une espérance. Alléluia. Un jour, nous nous retrouverons avec ceux qui nous ont précédés. Il y aura une adoration comme il n'y en a jamais eu. Les chrétiens de tous les âges, de toutes les civilisations, nous verrons les apôtres Paul, nous verrons Jésus lui-même, bien sûr, il sera là. Nous verrons les gens qui ont écrit la Bible, Jean-Marc, nous les verrons, nous serons avec eux, nous serons avec l'apôtre Jean en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive de penser à ceux qui dorment et être dans les inquiétudes? Non, ne soyez pas inquiets. C'est d'ailleurs une des raisons, on le verra plus loin, pour laquelle l'apôtre Paul était en train de donner ses conseils. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Mais laissez-moi dire ici quelque chose, c'est que mourir dans le Seigneur, ce n'est pas mourir en étant membre d'une église. Parce que le ciel sera un moment de surprise. Lorsqu'on va arriver là-bas, on va se rendre compte qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas montés. Oh, on regarde comme ça. Le pasteur de cette église-là, ah, il n'est pas là. Ah, et on voit un musicien connu, célèbre, il n'est pas là. C'est lui qui entonnait les cantiques dans notre église. Ah, il n'est pas là. La maman là, elle dansait beaucoup. Elle donnait l'argent à l'église. Elle n'est pas là. Le ciel, ce sera une journée de surprise. Je pense des fois à moi-même en tant que prédicateur, pasteur, combien de fois ne suis-je pas allé prêcher dans des cultes ou un membre, ou même des fois c'est pas un membre, on me dit que c'est un croyant, ou toi aussi tu prêches en donnant des exemples. Ces jours-là, sera surpris. Les exemples que tu prenais. Hein? Le frère n'est pas là. La sœur n'est pas là. On pensait qu'il était ici, mais il est où? Elle est où? C'est ce qui va se passer ce jour-là. On arrive au grand jour. Le jour où les masques tombent. Parce que dans l'église, dans les églises, les gens ont des masques. On a tous des masques d'être des hommes sérieux, des hommes qui craignent Dieu, des grands adorateurs. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. On a beau être ceux qui prêchent, mais vous savez, ce message nous interpelle nous-mêmes en tant que prédicateurs. Est-ce que quand la trompette va sonner, je partirai? Est-ce que je me conduis de manière à ce que je ne rate pas ce grand rendez-vous? Est-ce que je me tiens devant Dieu de manière correcte? Parce qu'on peut rester fidèle à son Église et devenir infidèle à Dieu. On peut rester présent à toutes les activités de l'Église. Comme j'aime souvent dire, on peut porter le macaron de l'Église et manquer le macaron du ciel. Et ne tombons pas dans ce piège-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Troisièmement, je me pose la question, en lisant ce texte, quand on dit que nous serons enlevés, avec quel corps? Quel est le corps que les chrétiens auront à l'enlèvement, lorsque nous serons enlevés? La réponse, nous trouvons ça dans la suite de 1 Corinthiens 15. Je vais lire une portion à partir du chapitre 15 d'1 Corinthiens, le verset 35. Je vais sauter quelques versets. Je lirai 35 à 38, et puis 42, 43 et 50. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chacun et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé, corruptible, il ressuscite, incorruptible. Il est sémé, méprisable, il ressuscite, glorieux. Il est sémé, infirme, il ressuscite, plein de force. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Ce qui va se passer au moment de l'enlèvement, c'est que les morts en Christ vont recevoir un nouveau corps que la Bible appelle un corps glorieux. Et nous, les vivants aussi, qui allons quitter la terre, qui allons partir, nous allons tous aller de l'autre côté, revêtir un corps incorruptible, le corps qui nous permettra de nous tenir devant la sainte présence de Dieu pour l'éternité. Parce que si Dieu ne nous change pas de corps, comment on va résister dans sa sainteté-là? Alléluia! Alléluia! Un corps glorieux nous attend. Un corps glorieux, si tu marches avec Dieu, si réellement tu ne rates pas ces moments-là, et si tu marches dans la crainte du Seigneur, un corps de gloire t'attend. La Bible dit que nous sommes sémés corruptibles, méprisables. Ça me fait souvent penser aux conditions dans lesquelles certaines personnes meurent. Vous savez, il y a des gens qui meurent accidentés, écrasés. Certains même, vous ne savez même pas reconnaître dans quel état est le corps. Ceux qui se noient, ceux dont le corps se décompose. Ou encore même ceux qui sont plongés dans l'acide et qu'on ne peut même pas, sur le plan humain, récupérer le morceau de corps. Mais la Bible dit, même ce qui est sémé, méprisable, invisible aux yeux de l'homme, il va ressusciter glorieux. Même celui qui était pauvre, même celui qui n'avait pas d'aisance ici sur la terre, même s'il était méprisable par le peu de ressources matérielles peut-être qu'il avait, la condition de vie qu'il avait, frère, n'abandonne pas la justice de Dieu parce que tu es méprisable ici sur terre. Que le manque ne puisse pas te pousser à voler. Ne rate pas le ciel. Tu risques de souffrir doublement. Pauvre sur terre, et encore là-bas tu rates. Si tu as raté ici, La Bible dit que là-bas, tu peux te retrouver. Alléluia. Quatrième question. Comment, et ça c'est une question pratique, comment se passera l'enlèvement de l'Église? Comment est-ce que l'enlèvement va se passer? Et là, je vais rentrer dans 1 Corinthiens 15, 51 à 54, et puis je lirai, je retournerai dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. On commence par 1 Corinthiens 15, 51, 54. Paul dit ceci, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons... Alors, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Comment se passera l'enlèvement? En un instant, en un clin d'œil. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le trait commun entre ces deux textes, en termes de procédure, c'est que c'est un instant qui dure un clin d'œil. Je vais vous proposer un exercice simple, celui de cligner de l'œil. Faites un clin d'œil, voilà. J'espère que Jésus ne sera pas revenu avant que vous le puissiez ouvrir. Bon, je ne peux pas dire qu'il ne revienne pas, qu'il nous laisse prêcher. Si, il peut même revenir maintenant. Mais vous avez vu ce que ça fait comme durée, un clin d'œil. Au fait, l'enlèvement va se passer comme ça. Donc, nous serons comme on est là. Et puis, bon, oh, ils sont plus... Oh, oh, oh. Maman n'est pas là. Oh, maman mangeait ici. Oh, on voit seulement la cuillère tomber. Oh, oh, maman est où? Oh, papa, eh, mon fils là qui prie. Oh, il est où? Eh, on est en train de chanter. Oh, la guitare est tombée. Eh, le guitariste est où? J'espère que tu ne resteras pas toi sur ton instrument. Toi, tu es toujours là. Et le prédicateur prêchait. Oh, le pasteur n'est plus là. Bizarre. Le pasteur continue de prêcher. Regarde, l'interprète n'est plus là. En un clin d'œil. Ça se passe en un clin d'œil. Ou encore l'inverse. L'interprète est là, plein de force. En termes d'interpréter, encore les interprètes d'aujourd'hui, ils ajoutent des choses que le pasteur ne dit pas. En train d'ajouter là seulement, eh? Le pasteur n'est plus là. Les protocoles ne sont plus là. Ah, c'était ton tour de donner l'offrande. On te donne le panier, eh, mais tu n'as plus personne à qui donner. Bien-aimé, ce jour arrive. Ce jour est pour bientôt. Église de Dieu, n'oublions pas. C'est important qu'on se prêche ces choses. Parce que nous sommes devenus tellement matérialistes que nous oublions qu'il y a un ciel, qu'il y a un rendez-vous. Et je l'ai dit encore pour une fois, le deal est plus grand que la terre. Le deal ici dans lequel nous sommes, le contrat dans lequel Dieu nous amène, c'est un contrat plus loin qu'avoir des véhicules, plus loin qu'avoir des maisons. C'est plus grand qu'avoir une femme, un mari. C'est plus grand qu'avoir des enfants. C'est plus grand que d'être millionnaire. C'est plus grand que d'avoir une position sociale. Ce contrat, c'est un contrat plus grand, plus grand. Arrête de voir le salut comme étant juste un petit truc qui te permet de vivre sur la terre. C'est pour l'éternité. C'est grand, c'est grand. Cette histoire-ci, c'est très grand. Ça se passe en un clin d'œil. Donc, en quelques millisecondes, les morts mentent, nous les vivants aussi, on les suit, on se retrouve dans les nuées. J'ai suivi plusieurs films, en tout cas qui sont sortis, où on parle, on raconte l'histoire de l'enlèvement de l'Église. J'aime beaucoup les metteurs en scène dans leur imagination, des fois comment ils traduisent des choses. Ils montrent comment est-ce que quelqu'un qui était très actif dans une église reste. Ils montrent comment est-ce que quelqu'un qui ne croyait pas au Seigneur se rend compte qu'il est le seul dans la famille à être resté. Les parents sont partis, tous les amis sont partis, tous les frères sont partis, l'école est partie. Et dans les journaux, on commence, les journaux télévisés, les païens, bien sûr, ceux qui vont rester, ça c'est dans les metteurs en scène, les gens passent, on signale les disparitions, de nombreuses personnes ont disparu. Ça va passer dans les journaux. Et ça passera sur Internet. Les gens vont créer des groupes dans lesquels ils vont commencer à signaler les disparitions. Ah, mon fils a disparu. Un phénomène bizarre. Il n'y aura pas un phénomène bizarre. Ça sera Jésus qui serait revenu pour prendre son église. Jésus revient bientôt. Il ne reviendra pas forcément un dimanche. Le jour où tu te laves là et tu viens à l'église, tu pries, tu dis Seigneur pardon. Non, non, non. Il peut venir un jour de la semaine. Il peut venir la nuit pendant que tu dors. Il ne viendra pas nécessairement lorsque toi tu penseras qu'il est en train de venir. De toutes les façons, quand il reviendra, parce que nous ne sommes pas dans le même fuseau horaire, dans un pays les gens seront endormis, dans un autre les gens seront éveillés. Mais il reviendra. Assurément, il reviendra. Tu seras endormi à côté de ta femme, mais toi tu n'aimes pas le Seigneur, ta femme partira et toi tu resteras. Ainsi il est écrit, des deux qui seront sur un même lit, un sera pris, un autre restera. Toi qui ne prends pas en serré la foi de ta femme, toi qui penses qu'elle fait de trop, je m'adresse à toi Marie, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Oh, toi femme qui crois aussi que ton mari, il en fait de trop, donne ta vie à Jésus. Tu risques de rester. Tu vas penser qu'on est venu prendre ton mari la nuit. Personne n'est venu le prendre. C'est l'enlèvement de l'église. Jésus revient et dans votre sommeil, il le prend. Il prend ton enfant, il le prend. Si ta sentinelle est chrétien, il prend ta sentinelle. Et toi l'enfant, le boss, tu restes. Que Dieu donc nous aide à être conscients qu'il y a un événement qui durera quelques millisecondes qui nous guette et qui nous attend. C'est pas un événement qui durera longtemps. En quelques secondes, les gens sont partis et d'autres sont restés. Cinquième question. Pourquoi Jésus-Christ enlève-t-il son Église? Pourquoi finalement il enlève l'enlèvement? J'aurais dû commencer par ça. Mais j'ai prévu de suivre le fil conducteur d'un Thessaloniciens 4, 17. Parce que c'est au verset 17 que Paul nous donne ce qui est la raison fondamentale. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore? Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18, est-ce qu'on peut nous aider à prendre le verset suivant? 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi prêcher sur l'enlèvement de l'Église? Premièrement, parce que il y a une consolation. Paul dit que lorsque vous vous retrouvez entre vous chrétiens, parlez de ça. Parlez de l'enlèvement. Ne tenez pas une année comme ça, vous vous rencontrez, vous ne parlez pas de l'enlèvement. Dans les réunions des cellules de prière, parlez de l'enlèvement. Dans les études bibliques, Parlez de l'enlèvement. Même au travail, vous rencontrez avec les frères dans les départements. Parlons de l'enlèvement. Paul dit que nous allons nous consoler les uns les autres. Parce que nous avons plein de sujets qui nous font pleurer. Mais savoir que Jésus que nous avons, en qui nous avons cru, que nous avons suivi, il revient. J'aime l'expression que l'apôtre Pierre utilise en disant « Celui que nous avons servi sans l'avoir vu ». Vous savez que pour les disciples, peut-être c'était facile. Ils ont rencontré un monsieur qui leur a dit « Vas-y, va faire ceci, va faire cela ». Mais Pierre a connu Jésus. Ils ont rencontré un monsieur, ils le voyaient. Mais nous, nous croyons à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Vous savez qu'on est vraiment des fous, hein? Les gens nous trouvent bizarres. Si on te demande, il habite où, tu dis quoi? Mais imaginez, pendant des années, j'ai cru en quelqu'un, qu'il m'a sauvé, qu'il est mort à la croix, et je crois qu'il vient me chercher. Ah, et puis la personne vient. Ah, et, mais je serai heureux. Je suis consolé. Qu'est-ce que vous ne subissez pas comme honte dans la famille pour telle ou telle chose? Je me souviens de l'exemple d'un frère qui, pendant quelques années, ils n'avaient pas encore eu des enfants. Les réunions de famille se faisaient, on lui disait, frère, vas-y, tu peux même mettre au monde dehors, ça va faire quoi? Dans votre église, là aussi, on exagère. Ici, dans cette église, le frère de cette église. Ça va faire quoi? Tu vas mourir seulement comme ça? Tu crois que Dieu est contre le fait que tu puisses avoir un enfant dehors? Oui, Dieu est contre. Dieu est contre. Je pensais qu'il y aurait des gens qui diraient Amen. Oui, Dieu est contre. Dieu est contre. Il faut rester fidèle. Mais celui vis-à-vis duquel vous restez fidèle, vous ne l'avez jamais vu. Jamais. On est là, on prie. On a au Seigneur, nous t'aimons. Qui le voit ici? Vous l'avez vu, il a porté quel habit? De quelle couleur? Mais au fond de vous, vous savez qu'il est là. Alléluia. C'est ça être chrétien. C'est ça être enfant de Dieu. Nous tenons ferme. Alors que les autres acceptent la corruption, ils acceptent la tricherie, ils acceptent les raccourcis, ils acceptent de se corrompre dans les systèmes de ce monde. Vous tenez ferme. Vous serez consolés. La consolation arrive. Est-ce que vous m'aidez à dire à votre voisin, la consolation arrive? Bien-aimé, la consolation arrive. Notre consolation est en route. Le consolateur vient nous chercher pour que nous ne puissions pas rester dans ce monde. Jésus enlève son église justement parce qu'il veut consoler son église. Il veut rester avec son église. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À partir de ce moment, c'est fini. Nous montons au ciel. Et une fois que nous sommes au ciel, l'événement qui se passe au ciel, c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Nous sommes enlevés, l'Église est conviée à une sorte de tribunal. Je précise que le tribunal de Christ n'est pas un tribunal pour le salut ou la perte, pour la condamnation ou l'acquittement. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal où on cherche qui va aller au ciel ou non. Non, c'est déjà l'Église. Mais c'est un tribunal de récompense. C'est un tribunal où on récompense la fidélité. Bien-aimés, ça va arriver bientôt. Ceux-là qui aiment réellement le Seigneur, qui le servent réellement. Parce que des fois dans les églises, les gens servent des hommes. Ils sont là parce qu'ils servent un homme. Mais ils sont pas là parce qu'ils servent le Seigneur. Le Seigneur va récompenser ceux qui le servent réellement. N'oubliez pas, ne tombez jamais dans le piège de commencer à servir les hommes. Servez Dieu et craignez Dieu. Alléluia. Romains chapitre 14, je vous propose de lire à la maison les versets 10 à 12 et 2 Corinthiens 5 verset 10. Moi je vais paraphraser littéralement. La Bible dit nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son... Ah, bien-aimé, regardons bien comment nous marchons. Il nous faut tous comparaître pour que nous recevions le salaire. Pierre dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Parce que c'est là que Dieu commence son jugement. L'église, vous montez, mais ça va pas se passer en désordre. Oh, vous êtes ici, c'est bon. Toi, tu étais qui? Ah, moi, j'étais ceci. Ah, je venais seulement à l'église. Ah, ok. Et moi, ah non, j'étais pasteur. Ah, ok. Bon, de toute façon, il connaît. Hein. Je ne fais que donner l'exemple. Il dit, voilà, dans ce que tu devais faire, voilà, tu devais faire ça, ça, ça. J'aime souvent dire, Jésus va regarder les gens qui avaient des capacités de faire des grandes choses et qui n'en ont fait que des petites. Et il va leur donner un salaire. Vous savez, des fois nous impressionnons les hommes. Vous pouvez avoir un homme qui construit ou même qui constitue une église de 10 000 membres alors qu'il avait la capacité de 100 000. Vous savez, pour les hommes, c'est un homme qui a fait une grande église. Pour Dieu, il a échoué. Il a eu 1 sur 10. Et c'est ça qui va se passer au ciel. Vous avez la capacité de composer 1 million de chansons. Vous en avez composé 1500. Ici, sous la terre, nous, on a été impressionnés. Ah, les frères là. Oh non, cette sœur. Mais quand vous arrivez là-bas, Dieu dit, il a 1,5. Ah, là-bas, ça sera terrible. Vous avez la capacité de faire l'intercession. D'encadrer les mamans. D'encadrer les papas, les jeunes, les enfants. Mais vous ne l'avez fait ça qu'à moitié. Vous deviez être diacre, ancien. Vous avez fait ça à moitié. C'est là-bas que les récompenses sont données. Mais, sachez-le, le tribunal de Christ n'engage pas votre salut. Ce n'est pas pour être sauvé ou condamné. Ça déjà c'est bien. Alléluia. Mais pendant que nous sommes au tribunal de Christ, sur la terre, commence la période de la grande persécution. Une période terrible arrive sur la terre. La Bible dit que ça sera les 7 ans du règne de l'Antéchrist. 7 ans, divisés en 2 moitiés de 3,5 et 3,5. 3 ans et demi, comme dit le langage de la Bible, 1 temps, 2 temps et la moitié de temps. Pendant ces 3,5 années, l'Antéchrist viendra. L'Antéchrist va venir montrer qu'il est un bon dirigeant. Mais la deuxième moitié, il va montrer sa vraie face. Ne vous en faites pas si l'enlèvement de l'église a lieu aujourd'hui. Ça signifie que l'Antéchrist est déjà vivant. Ça sera un être humain. Il aura une influence sur les nations. Il aura aussi une influence sur Israël. Parce que la Bible montre l'influence qu'il aura sur les nations et particulièrement sur l'État d'Israël. Donc l'Antéchrist, c'est un homme d'un certain âge, vivant, ayant une influence politique. Et il peut ne pas être connu aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'il travaillera avec la puissance de Satan. Donc, Église, je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Vous ne serez même pas là. Vous serez, je l'espère pour vous. Nous serons au ciel. Mais ça, c'est les choses qui se passeront sur la terre. La deuxième raison pour laquelle nous estimons qu'il faut prêcher sur l'enlèvement de l'Église, c'est pour avoir une Église spirituelle. Une Église spirituelle qui n'est pas tournée vers les choses de ce monde. De plus en plus, nous avons des Églises matérialistes, des chrétiens matérialistes, des chrétiens qui ne pensent pas aux choses éternelles. Ou qui pensent de moins en moins des chrétiens dominés par le matériel. Jésus veut que nous puissions parler sur l'enlèvement de l'Église pour que nous puissions nous entretenir en se disant nous devons être prêts. Comme dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu au chapitre 25, 1 à 13, il y avait 10 vierges. Elles étaient toutes vierges, mais elles n'étaient pas toutes sages. 5 étaient sages et s'inquiétaient folles. Elles avaient la condition, elles attendaient l'époux, mais cinq étaient prêtes, cinq ne l'étaient pas. Pourquoi nous prêchons sur l'enlèvement? Pour que nous soyons prêts, bien-aimés. Ça sera une perte d'être venu prier pendant des années et que finalement nous n'allions nulle part. Je termine par ce texte de Paul aux Corinthiens, pardon, aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 19 à 20. L'apôtre Paul dit, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire, vous êtes notre joie. L'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, le jour où Jésus va revenir, le jour de l'avènement de Jésus, vous là, vous êtes notre joie. Vous serez notre couronne de gloire. Si je peux parler en paraphrasant le pasteur Bondo, notre pasteur, nous serons la couronne de joie du pasteur Joseph Bondo. S'il, une fois au ciel, il regarde, je n'ai pas passé des dimanches à crier dans cette foule pour rien. Je n'ai pas passé mes dimanches à parler pour rien. Au moins, ce frère que je voyais dans mon église, il est à ce rendez-vous. Cette sœur, elle venait avec son mari et ses enfants. Elle est à ce rendez-vous. Ils sont à ce rendez-vous. Vous êtes notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. L'église qui vit en pratiquant ces choses va faire la fierté. Parce que la vieille fierté d'un pasteur, ce n'est pas d'avoir une grande église, mais c'est que ses fidèles aillent au ciel. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt?
Seras-tu prêt? Rends-tu bien?
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Seras-tu prêt?
Seras-tu prêt? Quand tu viendras,
seras-tu prêt?
Seras-tu prêt? Quand tu viendras,
oui, si tu es prêt,
si tu es prêt,
il te prendra,
il te prendra.
Alléluia.
Alléluia.
Oui, si tu
es prêt,
il te prendra.
Il te prendra.
Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui tu régneras. Et avec lui. Seigneur,
alléluia,
alléluia,
et
à ses pieds, à ses pieds, tu te tiendras,
et
à ses pieds,
tu
te tiendras. En lui tu te réjouiras, et en lui tu te réjouis. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. En lui tu te réjouiras, en lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras en l'entonnant. Alléluia. en entonnant. Alléluia.
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 J'aimerais faire un appel ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu as beau être régulier, permanent, présent à toutes les réunions de l'Église, ce n'est pas la condition pour être enlevé. Si ce matin tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu, j'aimerais juste te demander de te lever là où tu es. N'aie pas honte. Lève-toi promptement, que tu sois dans la salle, que tu sois dans les nayotes, les hangars dehors, lève-toi. Lève-toi pour donner ta vie à Jésus en ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Moi aussi, je veux être enlevé. Je ne veux pas rater ce jour. Lève-toi. Merci à ceux, pour ceux qui se lèvent. Merci. Je n'insisterai pas. Fais-le promptement. Là où tu te trouves, alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais faire un deuxième appel. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais ta façon de marcher, toi-même tu te poses des questions si réellement tu ferais partie de ceux qui seront enlevés. Ce matin, j'aimerais prier aussi avec quelqu'un qui veut renouveler sa décision de marcher avec Christ. Tu veux prendre l'engagement. Non, je veux revenir. Je veux revenir. C'est vrai que j'avais donné ma vie à Jésus, mais par ma façon de marcher, je commence à me rendre compte, je m'éloigne. Merci aussi pour ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui se lèvent. Seigneur, je t'apporte mon frère, je t'apporte ma sœur. Merci Père, parce que tu le veux avec toi au ciel. Si tu as envoyé ton Fils unique, c'était afin que nous ne puissions pas périr, mais pour que nous soyons sauvés. Je prie que tu l'acceptes dans ton royaume. Pardonne son péché. Pardonne son éloignement. Pardonne les temps de tiédeur pour celui qui t'avait déjà rencontré et qui s'est éloigné. Donne-lui de revenir à toi, au nom de Jésus. Je vais nous demander à nous tous de nous lever, s'il vous plaît. Nous allons rejoindre ceux qui sont debout. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de tenir ferme et d'annoncer son retour. En tant qu'Église, de proclamer son retour. Que Dieu nous donne la force d'être ses témoins et que nous ne puissions pas baisser la garde. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions ensemble, prions pour nous tous ensemble et demandons la grâce de Dieu sur nous.